Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1068 d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez par exemple Invino Sud Radio à Thonon-les-Bains sur 104.0.
Tiens,
et qu'on peut se retrouver
Thonon-les-Bains.
Sur... Exactement.
J'ai habité à côté dans les années 70.
Ah c'est vrai, ouais, ouais, ouais. J'ai bien connu également une Nantaise. Alors, Invino sur Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. On parlera tout à l'heure du château Cheval Blanc, l'un des quatre premiers grands classés de Saint-Émilion, du livre également, l'excellent livre, hein, Vinolande, qui va nous faire voyager grâce à Sébastien Durand-Vielle, et puis également le Vino Quiz pour gagner un coffret Divine et Silver Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme hier midi, on retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Encore une fois, tous mes voeux pour ce nouveau millésime, Hélène. Merci. David Cobol, également le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David.
Bonjour.
Et pour commencer, on accueille dans cette émission Invino Sud Radio, David et Célia Rostand et David Large. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bon, tout nouveau, bonne année. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux?
Un très bon millésime.
Ouais. Vous avez bien digéré le 31.
Plus là, facile ça, que 21.
Voilà, c'est ça.
Vous avez fait quoi pour le 31? Vous avez fait un peu la fiesta avec des potes ou
Grosse fête avec des copains de la Beaujolaise.
Ah, d'accord, très bien.
Beaujolaise.
Beaujolaise,
ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Vous en dites deux mots?
C'est un collectif de pirates en Beaujolais qui est en agriculture biologique.
C'est vrai.
Donc, on est une bonne équipe.
D'accord, bon, très bien. Donc, ça
on
sent la
vieille
fiesta.
Pirates.
Ils ont retrouvé leur voie, en tout cas. Alors, vous êtes où dans le Beaujolais? Parce que c'est une belle et grande région. C'est où? Vous êtes où?
Alors, c'est un petit village qui s'appelle Montmelat-Saint-Sorlin. Donc, c'est quand on arrive.
Par rapport à New York, vous êtes à combien de kilomètres là?
Par rapport à New York, loin.
Oui, loin.
Par rapport à Lyon, on est à une quarantaine de kilomètres au nord de Lyon. Et on arrive au tout début de l'appellation Beaujolais Village.
D'accord. Et alors, Célia et David, vous travaillez ensemble ou vous êtes en plus amoureux?
Les deux.
Oh là là, vous êtes mariés depuis longtemps? Ou en couple ensemble depuis longtemps?
4 ans maintenant.
4 ans, ouais.
4 ans, oui. En 2022, donc ça fait 4 ans et quelques, quoi. Hélène, j'ai fini mes questions indiscrètes, c'est à vous.
C'est ça. J'attendais de voir jusqu'où vous alliez. Mais en même temps, que 4 ans, il y a une logique. Il faut 4 ans pour qu'une vigne donne des raisins.
Ce sont les premières feuilles de l'amour.
Absolument, voilà. Exactement. Les feux de l'amour. Non, rien. Bon, allez, laisse tomber. Donc, 8 hectares de vignes en agriculture biologique, en plein cœur du Beaujolais, hein, on vient de le dire. C'est un domaine qui existe depuis combien de temps?
Alors, le mien perso. On va dire 2012. Mmh. Je suis reparti à mon compte après papa, maman. Ils sont arrivés en retraite. Mais sinon, dans le village en soi, la famille, c'est depuis 1840. Oui, 1840, ouais.
Absolument, on avait envoyé David Cobod à l'époque. On a retrouvé des photos, d'ailleurs. Très sympa, les ancêtres. Hélène?
C'est ça. Donc, effectivement, arrière, petit-fils de vigneron. Ouais.
Et vous, Célia, parce qu'on ne parle pas de vous, ce qui m'étonne de la part d'Hélène. Vous faisiez quoi avant d'être amoureuse?
Moi, je travaillais pour l'interprofession des vins du Beaujolais.
Ah, donc déjà dans le vin, d'accord, voilà. Très bien, voilà, parfait. Hélène.
Et puis, effectivement, donc, ce domaine où vous cassez pas mal de codes, et notamment, alors, vous avez les grandes appellations Beaujolais, Beaujolais Village, Côte de Brouilly, Moulin à Vent, et puis vous faites pas mal de hors-piste avec des vins de France un peu dingo.
Oui, c'est vrai, ouais. Ça permet de s'amuser un peu, de pas être dans le carcan du cahier des charges, de pas ennuyer les anciens qui pourraient être un peu agressés par les noms ou par les...
Qu'est-ce que vous avez comme truc dingo?
Dingo. J'ai une cuvée qui s'appelle Zombie, par exemple, pour le Beaujolais Nouveau.
Une cuvée qui s'appelle Zombie?
Oui.
D'accord.
C'est un petit clin d'œil à Romero. À chaque fois, il y a des vrais clins d'œil derrière, il y a une vraie démarche.
Ah oui.
C'est pas que pour provoquer ou faire n'importe quoi, hein. C'est quand même un peu technique. Et puis, j'en ai une qui s'appelle le Toxic Gamanger aussi, parce que j'étais fan de la boîte de prod de Trauma Movies, qui faisait des films un peu trash dans les années 80. Donc maintenant, c'est un peu... Ils font plus de films maintenant.
Il n'y a plus de trash.
Ils sont tous morts.
Vous avez la cuvée Rocco Siffredi aussi, des années 80.
Non, je ne fais pas.
Jurassic Park, non?
Jurassic Park, tout à fait. Oui, on fait des véhicules cultes aussi du cinéma.
Alors, les noms sont dingues, c'est vrai. Et le vin, il est comment, d'ailleurs?
Ça pourrait être du Beaujolais. Donc c'est du Beaujolais trad, travaillé à l'ancienne... en macération carbonique ou semi-carbo, je veux dire, c'est vraiment dans la tradition, même si les noms sont complètement
dingo, comme disait Hélène.
Ouais. Mais sinon, c'est du Beaujolais vraiment.
Mais les vins sont différents suivant vos noms, donc c'est pas la même chose que vous mettez équivalent, non?
Non, c'est de la parcellaire à chaque fois.
D'accord.
C'est un secteur qu'on met à part, qu'on vinifie à part. Ça permet de s'amuser un peu sur les vinifs, sur les temps de macération.
Parce que ce qu'on sait très peu sur le vignoble du Beaujolais, c'est qu'on a une extrême richesse géologique, en fait.
D'accord.
Donc ça permet de travailler en parcellaire. Et on a beaucoup de parcelles, en fait, très morcelées, notre domaine.
D'accord.
Donc on a beaucoup de types de sols et de sous-sols différents.
Donc
sur
des
le
vins
domaine.
In fine qui sont bien différents. David Cobol, oui. La géologie du Beaujolais en 30 secondes.
Il y a une semaine, j'ai expliqué toutes les nuances de la vinification beaujolaise, les différentes courants de vinification beaujolaise, auxquels David vient de faire allusion pour une partie. Donc il y a une gamme, une palette à leur disposition. Ils ont un seul cépage pour le rouge, le gamay, et plein de parcelles, plein de climats différents, et en même temps plein de possibilités en vinification.
Les gens pensent bêtement
de loin Beaujolais. Non. C'est des multitudes de styles à l'intérieur de cette région.
On parle souvent des climats
unique,
de Bourgogne, mais il y a effectivement des climats aussi en Beaujolais.
Et il faut signaler que certaines appellations, Moulin-Vent par exemple, étaient aussi cotées que les villages de la Côte de Nuit auparavant.
Absolument. Ouais, ouais.
Au début du XXe siècle, c'est bon, il y a 100 ans, mais les choses peuvent revenir. Quand on voit le nombre d'investisseurs qui viennent de la Bourgogne du Nord, qui achètent des parcelles en Beaujolais, on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme dans cette région.
La plupart du temps, le changement climatique nous casse les pieds, mais de temps en temps, ça peut avoir des répercussions pas trop mal dans certaines régions.
Ça
vous réussit pas si mal?
Oui, alors il y a eu. Ça dépend les millésimes. Mmh. Par exemple, je vois 15, on dit que c'est pas un millésime Beaujolais, parce que c'est
trop chaud.
Peu plus chaleureux.
Ouais.
Là, on revient sur des millésimes plus. J'allais dire plus Beaujolais, parce qu'on garde la fraîcheur et tout ce qu'on connaît du gamay, quoi. Mais oui, en tout cas, on le voit sur les terrains qu'on reprend, par exemple, sur les vignes. Des terroirs qui étaient un peu laissés en altitude.
Ouais, qui étaient trop gélifs ou des choses comme ça.
Et puis, le gel, vous l'avez subi cette année, le gel?
Beaucoup, gel, grêle.
Mauvaise année, quoi. L'an passé, c'était 2021, c'est pas une bonne année, quoi.
On vous souhaite pas du tout ça en 2022. Ouais, en 2022.
Exactement le contraire, quoi. Ouais.
Non, mais on voit l'impact, ouais, tout à fait.
Et alors, est-ce que c'est pour ça aussi que vous faites des essais avec parfois de nouveaux cépages? Je pense au Grüner Veltliner, cépage autrichien, que vous essayez d'implanter chez vous.
Ouais, on a déjà planté 2500 pieds sur une belle pente, là, qui était à mes parents. Donc, évidemment, pas en appellation. Et là, le clin d'œil, c'est juste pour mon grand frère. Qui est fan de ces vins-là, qui m'a ramené des vins autrichiens, allemands. Et ça a permis de discuter de plein de choses. Et j'avais pas d'idée pour replanter cette parcelle-là en vin de France, du coup. Et il m'a dit pourquoi pas du Grüner. J'ai dit allons-y.
Donc s'il était parti en Espagne, vous auriez du Grenache, quoi.
Exactement.
je pense que c'est assez cohérent parce que j'ai toujours comparé le Grüner, c'est un peu entre le Riesling et le Chardonnay.
Ah, oui.
Et comme le Chardonnay, c'est le cépage autorisé en Beaujolais pour le blanc. C'est pas du tout déconnant. Je pense que ça va être très intéressant.
Et
à
le
suivre,
nom,
ça.
Vous allez trouver là pour ce truc autrichien là.
J'ai deux trois idées, mais on part. Bon, je sais pas, on verra. On
garde la surprise. Non,
évitez le père Adolphe, s'il vous plaît.
Oui, voilà,
non.
Il y a des choses.
Jeu de mots là-dessus.
Je crois pas que ce soit le genre de la maison.
Pas trop.
Non. Ah, dites le prénom, par exemple.
Alors, j'ai pas d'idée de nom, mais je sais quel dessin il y aura. Pense.
Et il y aura quoi?
Je pense qu'il y aura un short de boxe thaïlandaise.
Un short de boxe.
Alors le rapport.
Et sinon, nos champignons là, ils sont locaux.
Le rapport sera avec le petit texte.
Ouais.
À chaque fois, j'écris un petit poème sur la contre-étiquette.
D'accord.
Il va falloir lire le petit texte pour comprendre.
Ouais. D'accord.
Bon. Ouais, c'est pour quand alors quand est-ce qu'il sera prêt ce Grüner Veltliner?
Qu'on apprenne à lire avant pour être sûr de pouvoir lire.
Si on a de la chance, on devrait sortir le premier, les premiers jus cette année en fait.
Ah ouais.
2022.
Voilà. Bon, très bien, les bouteilles, ça fait combien de bouteilles par an au total?
Ça aussi, mais entre
moyenne,
25 et 35.
D'accord. Et vous les vendez comment? D'abord le prix, tiens, parce que les grandes box, tout ça, c'est rigolo, mais vous êtes à quel prix?
Sur nos vins en général?
Ouais, en général, de combien?
On est entre 10 euros sur les Beaujolais nouveaux jusqu'à 25 sur notre moulin avant.
D'accord.
Parce que pour le moment, on a encore des parcelles en conversion bio parce qu'on a réétendu un petit peu le domaine. Et une fois qu'on passe les parcelles en bio, ça augmente un tout petit peu.
Et pourquoi vous faites du Beaujolais nouveau?
Mais pourquoi pas?
Parce que c'est bon.
Parce que ça peut être délicieux.
Ouais. En fait, c'est des vins sur lesquels on peut vraiment beaucoup s'amuser. Ouais. C'est assez technique à faire en réalité. Il y a l'image qu'on connaît tous. Mais en fait, c'est des vins qui sont assez complexes à faire pour que ce soit prêt à temps. Et que les gens prennent quand même du plaisir à les goûter. Et puis ça permet aussi de goûter le millésime qu'on vient de vendanger, en fait.
Alors c'est vrai, il y a un côté effet d'expérience, quoi. David, vous éclatez à faire des Beaujolais nouveaux?
Oui, j'aime bien. Et puis j'ai fait une belle rencontre avec des clients et presque amis japonais qui m'ont fait confiance sur cette cuvée, qui ont réservé à l'avance, qui ont redécouvert ce que j'avais fait. Je voulais arrêter, en fait, d'en faire. Du coup, ça a permis de créer des liens. Et grâce à eux, en fait, le fait d'en refaire, ça me permet aussi de vendre mes autres gammes que les gens connaissent pas.
Bien sûr, quoi. Oui, c'est une façon de rentrer, quoi. Ouais, super.
Et alors, au Japon, comment sont prises vos contre-étiquettes? Parce que, effectivement, on l'aura peut-être compris à travers les lignes, vous êtes vigneron, mais vous êtes aussi poète, je pense qu'on peut le dire. Vous avez des textes super chouettes. Donc, de toute façon, quand je le pense pas, je le dis pas. Donc,
bah, allez-y, lisez-nous un ou deux trucs, là.
Ah non, j'ai pas les textes de David sous les yeux.
Allez-y, le dernier poème, c'était quoi?
Oula, mais je sais pas s'il les connaît par cœur.
Voilà, purée.
Ah non, mais
je suis pas sur une bouteille, je pourrais le dire sur une bouteille,
ouais,
par exemple.
Ouais.
Alors, revenu à la vie, dehors le chaos, la brume, la nuit, carcasse de voitures de police, s'éloignent les gyrophares des dernières ambulances, la ville s'éteint, plus aucun bruit, le signal radio est coupé, nous sommes une centaine, bientôt des milliers, revenu à la vie.
Oh, c'est beau ça.
C'est joli.
On va le répéter tout à l'heure tranquillement entre nous. Là,
Du coup, ma question tout aussi sérieuse était, vous dites des clients japonais, ils font comment les clients japonais avec le joli texte
Il est traduit en japonais.
Ouais, exactement.
Je pense qu'ils traduisent. On avait proposé de traduire et d'offrir des posters aussi en japonais. Aussi.
Ouais.
Et en fait, je pense que pour le côté un peu...
Frenchy.
Ils veulent garder le côté français.
Ah oui, ils comprennent pas, mais en tout cas, c'est français, quoi.
Non, bah après, ils peuvent effectivement Google Trad.
Ça va plutôt vite maintenant. Ouais.
Quand on est sur le périph de Paris, il y a des. Bon, alors, Hélène.
Alors effectivement, donc de jolis textes, on l'aura compris, souvent en forme de coup de colère. Hein. On a de la chance aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur, mais apparemment il y a des gens où vous êtes bien énervés.
C'est
bien
l'air très heureuse. Hein,
voilà,
je cache bien mon jeu.
Ouais. C'est ça. Et puis en effet, puisqu'on parlait de la cuvée zombie sur laquelle il y a ce joli poème, des essais de cuvées assez rigolotes. Par exemple, vous dites de Masai et de Zombie que c'est deux terroirs différents, deux parcelles différentes, deux villages différents. Les cuves sont côte à côte et vous faites deux cuvées qui n'ont rien à voir.
Oui, deux expressions différentes, ouais, tout à fait.
Mais ça prouve la richesse du terroir, ça voulait dire quoi.
Déjà, ouais. Et puis c'est pas très, habituel de le faire sur des Beaujolais nouveaux, parce que souvent c'est très péjoratif de faire du primeur. Et là, je trouve ça intéressant justement, d'un point de vue technique.
Donc du haut de gamme et élaboré, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais, on peut dire ça. Ouais.
Parce que déjà, 10 balles, c'est un bon prix, non?
Ouais, moi je trouve que c'est pas assez cher.
Ah,
c'est
bien.
Nous sommes
cher.
D'accord, bravo. Vous avez un site internet parce que vous êtes des gens formidables. Vous avez un site, non?
C'est davidlarge.fr.
David, il n'y a même pas assez là-dessus, il n'y a que et David.
Non. Ça va venir. Ça
ouais,
va venir.
Je sais, attention, parce que là, elle va gueuler, la LNPU. Ouais. Merci beaucoup.
Hein.
Merci Célia. Merci David quand même, Hélène Pio et David Cobol. On se retrouve dans un instant chez le caviste.
Je certifie que ces vins sont très bons.
Bon, c'est très bien. La question de David Cobol, ça vaut de l'or. Le Vino Quiz pour gagner des coffrets Divine et Siver Open Up Soft de la marque Chef et Sobelier. À tout de suite.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas à Paris. Nous sommes place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter chaque week-end. Nous sommes ravis. On peut se retrouver sur le compte Instagram Invino Sud Radio. On retrouve Hélène Pio et le Vino Quiz, Hélène.
Oui, donc je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et on peut gagner de super cadeaux. Un coffret Divine, 6 verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier qui appartiennent au groupe Arc, le leader mondial des arts de la table quand même, hein, en jouant sur invinoradio.tv. Alors ce week-end, il faut répondre à la question: quel est le nom du château dans le Bordelais dont Camille Lagnoux est la directrice? Réponse A, château Picoron. Réponse B, château Grignoton. Réponse C, château Becton. On salue l'ingénuité de Justine qui prépare les émissions. Et pour répondre et gagner un coffret Divine et 6 verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Nous tirerons le gagnant parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Pio. David Cobol, on parle aujourd'hui de l'un des plus grands vins du monde. Il est à côté de Bordeaux.
Oui, j'aime pas trop cette approche-là, plus grand vin du monde, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un vin qui est reconnu depuis très longtemps comme étant de très haute qualité. Il est de la très haute qualité, il s'agit de Château Cheval Blanc. Je ne vais pas parler du vin, proprement parlant, je vais parler d'une approche à l'agriculture que je trouve très intéressante, innovante dans le contexte actuel, mais qui est au fait un retour sur le passé.
Oui.
Et le fait qu'un château très prestigieux, parce que c'est un premier grand cru classé à Saint-Émilion, blablabla, même s'il refuse maintenant le classement pour le futur classement, appartenant quand même à M. Arnaud et à la famille d'Albert Frère, qu'un château comme ça ose mettre un pas dans une agriculture très innovante et en même temps très traditionnelle, je trouve que c'est un signal très intéressant. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de l'agroforesterie. Ils ont planté des centaines d'arbres et de haies, y compris au milieu des vignes, y compris dans les rangs de vignes pour certains. avec une diversité d'espèces, des espèces locaux, l'érable, le chêne, etc., qu'on trouve beaucoup dans le sud-ouest, mais aussi des fruitiers. Implantation de trois mares aussi pour avoir une diversité biologique sur la place et aussi pour aider dans le drainage et avoir de l'eau. Et puis des bosquets et arrêter tout travail de labour des sols. Parce que c'est une connerie, cette histoire-là. Maintenant, ils ont élicité l'aide de beaucoup de gens, dont Marc-André Solos, qui est un grand spécialiste des sols, de la vie des sols.
De quelle région, ce monsieur ?
Ce monsieur, il est professeur à Paris, mais il travaille dans différentes universités autour du monde, parce que c'est un grand spécialiste de la mycorhize, c'est-à-dire l'activité des champignons dans le sol, et de la vie des sols d'une manière générale. Or, il a décrit très précisément qu'en labourant en permanence les sols, non seulement on les oxyde, mais on tue la vie dans la partie superficielle atteinte par les charrues ou les griffes.
Donc c'est pas terrible tout ça.
Donc c'est pas terrible, alors que c'était très à la mode pendant très longtemps. Il dit au contraire, il faut couvrir les sols, il faut pas les laisser exposer, il faut coucher, soit tendre l'herbe, soit le coucher régulièrement, et laisser le sol vivre. Et Cheval Blanc a adopté cette politique. Ça a commencé déjà en 92 avec quelques poules. Ensuite, depuis 2008, le mouvement s'est accéléré. Et maintenant, ils ont un vrai programme extrêmement bien mis en place par un gars qui s'appelle Pierre-Olivier Clouet, qui est le directeur technique en dessous de Pierre Lurton. Et c'est, je trouve que c'est vraiment un signe très fort et très intéressant. Après, on va voir quel effet ça a
sur
les
vins. Le vin,
mais évidemment, ils n'abandonnent absolument pas la politique qualitative extrêmement sélective. Mais il dit que déjà, il y a des résultats sur la vie des sols, parce qu'on peut le mesurer. On peut prendre un échantillon de sol et mesurer la vie microbienne des mycorhizes, c'est-à-dire les champignons, qui ramifient en réseau à partir d'un arbre vers un autre arbre, voire un autre plante. Et ce sont ces mycorhizes qui permettent au système racinaire de la vigne, par exemple, de pomper des éléments minérales du sol. Les molécules de minéraux sont trop gros pour passer dans le système racinaire. Donc si vous n'avez pas des mycorhizes, des champignons qui cassent les molécules,
eh oui,
qui les rendent assimilables par la plante, eh ben, vous n'avez pas cette genèse, cette énergie qui passe dans la plante. Donc je trouve que cette approche est vraiment très significative. J'espère qu'elle sera suivie par d'autres partout. Je pense que beaucoup autrefois faisaient comme ça. On appelait ça les joales, quand on plantait des arbres au milieu de la vigne, pas simplement autour, mais aussi au milieu. Évidemment, on ne laisse pas l'arbre se développer complètement n'importe comment. Oui. On va le tailler. Et si on met des fruits, ça permet de laisser des fruits sur l'arbre qui vont être mangés par les oiseaux. Donc les oiseaux vont bouffer les insectes. Donc, il y a tout un écosystème qui se met en place, un système circulaire. On n'a pas besoin de mettre des engrais parce que la matière organique qu'on fait tomber sur le sol va générer de la matière organique dans le sol. Donc, je trouve que c'est un système très vertueux et je serais intéressé de voir que ça s'étende à beaucoup d'autres vignobles.
D'accord. Ouais. Et on a dans d'autres régions viticoles, pareil, une même
technologie. Oui, je pense qu'il y a d'autres expériences. Le gars qui était à la tête du mouvement agroforesterie, c'est quelqu'un qui vit dans le Gers, oui, et qui pratique ça sur son domaine depuis très longtemps. Mais j'aimerais bien voir ça pratiqué et qu'on arrête de voir. Ça s'étend au-delà du vin. Hein. Là, je prends un exemple dans la vigne, mais quand je vois autour de chez moi dans le sud-ouest, ces énormes quantités d'hectares où la terre est nue pendant tout l'hiver, c'est une connerie énorme. D'abord, il y a une perte de production. Hein. On peut produire une autre récolte pendant l'hiver. Il y a une déperdition des sols, il y a l'érosion des sols. Tout ça s'enchaîne. Et puis, une destruction de la vie du sol, ouais, aussi.
Merci beaucoup, David Cobbold. Invino sur Radio retrouve maintenant Hélène Piau pour une présentation d'un livre au titre étonnant, Vinoland. Mais Vinoland, c'est quoi? C'est Disneyland? C'est Cobboldland?
Alors, c'est pas Cobboldland, c'est Durandvielland. Sébastien Durandviel, l'auteur des textes de ce magnifique livre, paru aux éditions Hachette, qui est sorti là il y a quelques semaines, illustré par Alex Chauvel, que je cite immédiatement parce que comme pour le précédent livre dont j'ai parlé il y a quelques émissions, La Loire et ses vins, les illustrations sont aussi importantes que le texte pour le plaisir qu'on retire de ces livres. Alors Vinoland, vous interrogez sur ce nom, c'est inspiré de Movieland qui est paru chez Hachette Heroes en 2018 et puis le deuxième volume en 2020. C'est la promenade d'un passionné, David Honora, dans l'histoire et les univers du cinéma à travers une cartographie imaginaire. C'était un road movie à travers les genres, et là on a un road movie à travers les vins. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'un atlas géographique habituel, vous avez alors l'Europe, elle est par ordre d'apparition, l'Italie, la France, l'Espagne. Bon, ça fait chier tout le monde, hein, faut être lucide. Bon, ok, j'avais dit que je ne dirais plus de gros mots à l'antenne.
Non,
ça,
et bonne résolution là.
Ça y est, c'est raté. 2022, c'est déjà bon. Bon, ok, bon, je
plus
ferai mieux.
De gros mots.
Je ferai mieux en 2023, je vous promets.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oh, vous pouvez aller au rouge, aller au point d'en est.
Non,
on est
non,
plus
non,
à ça
non,
près.
Non, 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 on vous aime.
Donc, c'est vrai que les atlas comme ça, on en a tous, enfin tous les fans de vin, ouais, on en a reçu au moins à Noël, et ça, voilà, c'est pas ce qu'on va lire en priorité.
C'est gentil pour mon dernier bouquin, ça, Hélène, merci. Hein.
Oui, mais non, l'avantage, le vôtre était forcément bien, on en reparlera.
Ça
David.
Cale bien une armoire déjà, et deuxièmement, ça peut brûler
c'est vrai
dans une cheminée.
Ouais.
Non, mais ça, il y a des utilités.
Bref, oui. Vinoland prend la géographie par les sens, ça vous prend par le plaisir, par la gourmandise, par les papilles, et ça vous fait tourner quand même 156 pages, comme si c'était un roman à suspense. En fait, l'idée, c'est plutôt donc, qu'effectivement de le faire par continent, par pays, on va le faire par genre de vin, par style, par approche. Et c'est comme ça qu'on a la vallée de la soif, l'atoll aux mille parfums, la Costa Rosa pour les rosés, le Cap Fraîcheur. Et dans le Cap Fraîcheur, vous pouvez avoir aussi bien des blancs, des rouges, des rosés. Ce sont les vins liés par la fraîcheur. La forêt des géants pour les vins mythiques. Et donc, un exemple parmi tant d'autres, dans l'archipel des Bulles, vous avez à la fois le Maharashtra en Inde, vous avez les vins du Dorset, vous avez les Crémants de Loire, vous avez le Franciacorta, le Prosecco, les vins de Marlborough, enfin, vous avez plein de choses très différentes comme ça, qui sont regroupées dans un même chapitre, parce qu'on a cet atoll de bulles imaginaires qu'on retrouve un peu partout dans le monde. C'est futé. C'est drôle, c'est bien renseigné, et ça ne nous étonne pas beaucoup de Sébastien Durand-Vielle, qui est un grand connaisseur des vins. J'ai aimé ce livre aussi parce que Sébastien a le don de déculpabiliser, de démocratiser les vins. Alors le truc est d'autant plus drôle que de temps en temps il raconte un peu sa vie, il raconte son premier verre de Sauternes quand il avait 5 ans.
Bon. À 5 ans vous dites.
Oui, bon, son premier doigt dans un verre de Sauternes.
Ah bon, c'est beaucoup mieux ça.
Voilà, c'est plus politiquement correct.
Je m'en souviens, c'était chez moi.
Oui, il semblerait que Sébastien soit un grand proche de David Cobold.
Oui.
C'est la même famille, on peut le dire à l'antenne. Et puis il raconte aussi par contre ses premières désillusions, autant le verre de Sauternes c'était un enchantement, ses premières désillusions de très jeune journaliste qui assiste à un repas de presse et qui se retrouve face à son premier sommelier ultra pédant. Dieu sait que dans cette émission
c'est presque un pléonasme. Non
alors si on fait écouter
non,
par exemple
vrai,
par un certain Philippe Forbrac, on va se faire engueuler.
Non, mais on les embrasse tous, mais enfin il y en a quand même quelques-uns.
Il y en a d'ultra pédants.
Quelques noms, tiens David, de
non,
sommelier.
Je n'en donnerai pas, mais c'est Sébastien n'en donne pas non plus quand il décrit donc ce repas de presse planté au milieu de la salle dans un silence de cathédrale. Il égrenait sentencieusement les arômes les uns après les autres. Un défilé interminable qui nous a fait visiter une boulangerie, traverser un champ de fleurs, un autre d'arbres fruitiers, puis parcourir un étal d'épices, une carrière de calcaire pour finir dans une forêt à l'automne au milieu des champignons et des feuilles mortes. Novice, impressionné et désespéré, je replongeais encore mon nez afin d'être incapable d'en saisir le dixième. Et c'est vrai que parfois,
on
se retrouve comme ça.
On est d'accord, ça représente une infinie partie des sommeliers, parce que les autres sont des gens normaux, compréhensibles, et on les aime aussi.
Oui.
Il y en a quelques-uns, ils sont insupportables. Hein.
Non, mais
ils se réfugient vers des mots qu'on ne comprend pas.
Et hein, alors, il nous faut bien les 156 pages de Vinoland pour se dire « Ah, mais j'étais pas complètement nonneux, en fait, ou j'avais pas un rhume ce jour-là. Juste, il y a des fois, le vin, ça peut être bon. » Juste ça peut être ok, frais, fruité si tu veux, mais ça peut s'arrêter là, et on a le droit de kiffer le vin.
Puis sans, on l'aime, on sait pas pourquoi on l'aime, mais on l'aime, hein.
Sans trouver des notes de sous-bois à l'automne vers 4h du matin, juste après le passage du lièvre, vous voyez, je veux dire, c'est possible, on a le droit.
C'est
et merci Sébastien Durand-Vielle et Alex Chauvel de nous autoriser ça. Surtout que c'est un vin où.
Un livre, pardon.
J'en perds mes mots. Où quand même, dans les mêmes pages, vous allez pouvoir trouver une comparaison entre Montrachet et Mbappé. Oui, c'est possible. Sébastien Durand-Vielle, il n'hésite pas, il y va, il est comme ça. Il dit, bah ouais, si on a le droit de dire que ça ressemble à un sous-bois sous la pluie, on a le droit de dire que ça ressemble
bien
à une chevauchée de Mbappé. Il n'y a pas de raison. Non, je vous parlais des illustrations. C'est le seul livre sur le vin, à ma connaissance, où vous allez voir sur la même page La Reine d'Angleterre et Vishnu. Franchement, il raconte un peu sa vie.
Ça coûte,
il désigne des icônes, il désigne des idées reçues. C'est super bien. 29,95€ chez Hachette Vin, Vinolande, 156 pages. C'est cadeau. Faites des cadeaux encore en janvier. Franchement, allez-y.
156 pages de bonheur. Merci Hélène Piau, merci David Cobol, merci également à Célia Rostand et David Large, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h précise, pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas, le caviste qui a été fondé, n'oubliez pas, en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut et bon dimanche.
Sud Radio, Invino.